les podcasts de Radio Vatican.
Le Premier ministre indien Narendra Modi est en France ce samedi 3 juin 2017, quatrième étape d'une tournée européenne qu'il a déjà menée en Allemagne, en Espagne et en Russie. Souvent relégué dans l'ombre de son voisin chinois, l'Inde cherche à s'affirmer sur la scène internationale, sur les plans du commerce, de la défense, avec des contrats d'armement dont les 36 avions de chasse Rafale achetés à la France l'an dernier, mais aussi à travers son engagement climatique. Le pays, troisième pollueur mondial, respectera l'accord de Paris sur le climat, a réaffirmé ce vendredi le ministre indien de l'Environnement au lendemain du retrait américain. Jean-Joseph Boyau est conseiller du club du CEPI, le centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale, et auteur de « L'Inde ancienne au chevet de nos politiques », sorti récemment aux éditions du Félin. Il revient sur les enjeux de cette tournée et le choix de privilégier les rencontres bilatérales. Narendra Modi n'a en effet rencontré aucun dirigeant de l'Union européenne.
Il y a d'abord un contentieux avec l'Union européenne concernant un accord de libre-échange qui est un véritable serpent de mer. Et l'impression des Indiens, c'est que l'Union européenne veut libéraliser plus ce que l'Inde voudrait, le marché indien, l'accès aux grands contrats, etc. Deuxièmement, il y a la perception que l'Union européenne est en crise. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus efficace quand l'Inde a des relations bilatérales avec la France, avec l'Allemagne. Là, il y a de véritables signatures de contrats, il y a des enjeux palpables. Et d'autre part, divide and rule, diviser pour mieux régner, parce que la meilleure posture de négociation avec un pays comme la France ou l'Allemagne, c'est d'aller voir son voisin et d'essayer de négocier de meilleures conditions. Et comme tout le monde est plutôt demandeur de l'Inde que l'inverse, c'est évidemment une position de force. Je rajouterai un dernier élément, c'est que quand vous êtes, vous, en Inde, vous ne voyez pas l'Union européenne. Il y a une petite ambassade, mais qui ne fait quasiment rien. Inversement, les pays européens sont très présents et sont en concurrence les uns contre les autres. De sorte que la vision que l'on a de l'Europe à New Delhi, c'est un ensemble de petites nations qui se font concurrence.
Pourquoi visiter ces 4 pays? Sur quels critères ont-ils été choisis?
L'Inde étant un géant, l'Inde est intéressée par tout. Si je prends le cas de l'Allemagne, elle est perçue très nettement sur le marché indien et par les Indiens comme étant le numéro 1 mondial des équipements, machines-outils. Et puis, dans un secteur comme l'automobile, c'est le meilleur de la technologie. Pour ce qui est des Français, c'est toute la filière armement. Ça ne m'étonnerait pas qu'on annonce très très prochainement que le contrat des Rafales, où il y avait eu 36 Rafales vendues l'an dernier, va être prolongé par une cinquantaine d'autres. Et dans le domaine civil, la France est en position de pointe dans des filières qui sont ce qu'on appelle la petite voiture. Donc Renault, aujourd'hui, a 5% du marché indien avec ses petites voitures low cost. Il y a les infrastructures, en particulier Alstom, sur le ferroviaire et sur les métros. Et puis, il y a les produits de consommation avec une entreprise comme L'Oréal, qui est le numéro 2 en Inde maintenant, de tout ce qui est la filière cosmétique. Pour l'Espagne, c'est toute la filière agroalimentaire, y compris, je mettrai la filière vin, c'est-à-dire l'Inde produit déjà du vin, mais il n'est pas de très très bonne qualité, donc il faut l'améliorer. Pour ce qui concerne la Russie, il y a d'une part tout ce qui est lié à la filière défense. Dans la défense, je mets le nucléaire. L'Inde vient d'annoncer qu'elle allait construire encore 11 centrales nucléaires. La Russie a à peu près la moitié de part de marché. Il reste donc pour la France et d'autres pays, mais en Europe, la France est le seul à offrir aujourd'hui des équipements nucléaires. Et dans le domaine, on va dire plus civil, la Russie est assez peu présente, mais elle est extrêmement forte dans tout ce qui est mathématiques, l'informatique pure, on va dire, et pas l'oublier, le spatial.
Mais le choix de ces pays ne répond-il pas aussi à des critères stratégiques? Et si oui, lesquels?
Alors, pour ce qui concerne la première visite et la plus importante, c'était l'Allemagne. L'Allemagne est le premier partenaire de très loin de l'Union européenne sur le marché indien. Les entreprises allemandes sont extrêmement présentes. Et puis, Mme Merkel est perçue quand même comme la grande chef, on va dire, de l'Europe. Et sur le plan également de la coopération avec l'Allemagne, il y a des sujets très importants tels que le nombre d'étudiants indiens qui vont étudier en Allemagne. Ils sont de plus en plus nombreux. L'Allemagne offre énormément de bourses aux Indiens. D'autre part, sur l'informatique, l'Allemagne est un marché qui est moins protégé finalement que le marché français qui a des champions nationaux. Ensuite, l'Espagne, parce que il y a une vision un peu d'ensemble de l'Europe qui consiste considère qu'il y a une Europe du Nord, une Europe du Centre et une Europe du Sud. Et il y a beaucoup d'Indiens installés aujourd'hui en Espagne. C'est un pays qui est limitrophe, frontalier finalement avec l'Afrique, et l'Inde est de plus en plus active en Afrique.
La France, elle, est un allié historique pour l'Inde, non ?
La France joue un rôle par rapport à l'Allemagne qui est intéressant. L'Allemagne, c'est un partenaire économique essentiellement. La France est un partenaire diplomatique de très très longue date. C'est un des plus fidèles, notamment au temps de la diplomatie gaullienne, de ni Est ni Ouest, refus des blocs. Et dès 1953, par exemple, l'Inde et la France ont signé un accord de coopération dans l'aéronautique qui s'est traduit par les premières ventes d'avions militaires de Dassault et qui a d'ailleurs marqué le retour de Dassault sur la scène internationale. Enfin, la France est au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, et évidemment, c'est une position clé, notamment parce que l'Inde aspire à un dossier qu'elle pousse en avant pour faire partie donc du Conseil de sécurité des Nations Unies élargi, et la relation avec Paris est une relation diplomatique essentielle.
Justement, la Russie aussi était un allié majeur, mais l'Inde s'est davantage tournée ces derniers temps vers les États-Unis. Quels sont les enjeux de cette relation entre l'Inde et la Russie ?
Alors, c'est extrêmement important, bien sûr, la relation avec la Russie. C'est en fait en 1971 que se tisse le véritable partenariat stratégique avec l'URSS à l'époque. La relation avec la Russie ensuite a pris une importance croissante sur le plan militaire. C'est devenu le premier fournisseur de l'armée indienne, qui est la deuxième ou troisième du monde. Donc, c'est pas rien. Et d'autre part, c'est intéressant parce que la Russie tient une position stratégique entre l'Inde et l'Europe, l'Inde et les États-Unis et l'Inde et la Chine, parce que en ayant des très bonnes relations avec la Russie, l'Inde se protège d'une certaine façon de la Chine qui elle-même souhaite attirer de plus en plus la Russie dans son propre camp. Et la Russie a bien évidemment un intérêt évident à avoir une relation forte avec l'Inde pour éviter, là encore, de perdre son indépendance. Sur beaucoup de dossiers, les Indiens et les Russes sont d'accord. Par exemple, dans le cas de la Syrie, ils ont des positions tout à fait identiques.
Vous évoquez la Chine. Comment est-elle perçue par l'Inde, comme un allié ou comme un concurrent ?
La Chine est vue par l'Inde comme à la fois un allié sur le plan, on va dire, global, dans le rapport de force entre les pays de l'Ouest et le reste du monde. C'est notamment la coopération des BRICS. Là-dessus, ils sont amis. L'Inde a besoin aussi des technologies, du savoir-faire, des équipements chinois qui sont très bon marché et plus adaptés à des pays en développement. Mais d'un autre côté, étant son voisin immédiat, étant l'allié de ses voisins qui sont ses ennemis, elle a besoin de rééquilibrer la relation en ayant des alliés. Alors les alliés, c'est les États-Unis. C'est aussi la coopération avec Israël qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et puis, il y a, dans la visite précisément de Narendra Modi en Europe, cette idée que l'Europe est fascinée par la puissance chinoise, et ce qui vient de se passer pour la dénonciation des accords de Paris par les États-Unis, vous avez vu qu'immédiatement la Chine s'est mise en posture d'être l'allié naturel de l'Europe, et l'Europe a trouvé évidemment un allié, bien sûr, du côté de Pékin. Donc il faut que l'Inde existe. C'est une puissance qui est plus petite, qui est moins présente sur les marchés financiers ou dans le commerce international. Donc il lui faut s'affirmer comme étant, vis-à-vis de la Chine, aussi une possibilité pour l'Europe, notamment, d'avoir un allié qui contrebalance un peu les appétits chinois.
Dans ce cadre, quels sont les atouts de l'Inde ?
Les atouts de l'Inde sont évidemment, on va dire, en quantité bien moindre que ceux de la Chine, mais la Chine fait peur, n'est-ce pas ? Donc, paradoxalement, son premier atout à l'Inde, c'est face à la Chine, c'est d'apparaître comme une grande puissance, puisque c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est le troisième produit intérieur brut mondial calculé, ce qu'on appelle au prix intérieur, donc ça devient un marché significatif. Le deuxième atout, je dirais, c'est de partager avec, on va dire, allez, le camp occidental, de partager les valeurs, pour l'instant en tout cas, très nettement, de la démocratie représentative comme système politique, et là, de ce point de vue-là, avec la Chine, il n'y a pas photo. Il y a un troisième atout de l'Inde qui est que son développement économique, bon, l'un dans l'autre, la croissance est de l'ordre de 7 à 8% par an. C'est-à-dire que l'Inde, depuis deux ans, a dépassé le taux de croissance de la Chine et qu'elle manifestement se positionne sur une trajectoire qui est de 7 à 8% par an dans les prochaines années, alors que la Chine, on le voit, est en train de ralentir très, très significativement. Donc il y a un potentiel dans les 10 à 20 prochaines années qui apparaît plus important du côté de l'Inde que du côté de la Chine. Enfin, pour valoriser ce potentiel, l'économie indienne est quand même une économie libérale, beaucoup plus ouverte, même si elle est très tatillonne, il y a des problèmes de corruption dans la fiscalité, des difficultés, etc. Mais c'est un pays où les entreprises européennes en particulier sont extrêmement contentes parce que c'est beaucoup plus facile de s'y installer.
La démocratie indienne que vous évoquez est critiquée. Pourquoi et avec quelles possibles conséquences ?
La personnalité de Modi, l'évolution actuelle de l'Inde fait un peu peur en ce qui concerne l'émergence du nationalisme hindou, voire hindouiste, avec depuis quand même quelques mois la multiplication de cas d'agression, de remise en cause de la tolérance religieuse, non seulement vis-à-vis des musulmans, mais aussi vis-à-vis des chrétiens. Il est possible qu'il s'agisse d'une tendance relativement durable qui est l'apparition en Inde d'un régime autocratique qui, sur le plan de la liberté religieuse, de la tolérance, rompt avec le modèle indien que l'on avait connu dans l'après-guerre, au moment de l'indépendance de l'Inde, qui me fait penser que, après la Chine de Deng Xiaoping, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, etc., on pourrait tout à fait observer à l'échelle du monde, avec l'Inde, un nouveau régime qui fait partie donc de ces régimes autoritaires. Ça va évidemment compliquer les choses puisque, comme on l'a vu précédemment, l'Inde est quand même perçue aussi comme à la fois la plus grande démocratie du monde, avec des valeurs plus proches de l'Occident. Et évidemment, la tendance actuelle du régime aura tendance à risquer de rompre cette stratégie d'alliance avec l'Inde pour rééquilibrer la Russie ou la Chine.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.